Radio Spirale. En juin 2012, le REIC présentait son colloque annuel intitulé « Territoire de l'interdisciplinaire, art et environnement ». Cette deuxième séance portera sur l'expérience immersive « Audiotopie » de Nicole Fournier, réalisée à l'occasion du colloque.
Bonjour à cette deuxième partie du colloque du REIC, territoire de l'interdisciplinaire art et environnement. Notre programme, c'était de 2 à 3 rencontres avec Nicole Fournier et Audiotopie. On est un petit peu en retard, mais on ne va pas couper trop le temps, mais on va essayer de faire une synthèse quand même. Puis à 15h, il y a une table ronde. Mais juste pour se délier peut-être un petit peu l'esprit et les pattes, on prendra 2-3 minutes entre les deux parties. Alors, je laisse tout de suite la parole à Martin et ensuite à Nicole. Merci.
Bonjour. Donc, le colloque, bien entendu, s'articule autour de ces 4 tables rondes, mais comportait 2 projets d'œuvres. Réalisé pour ce fait une œuvre sur le toit, une œuvre évolutive, vivante, que Nicole Fournier a réalisée, et une déambulation post-choc du collectif Audiotopie. Bon, déjà, pour ceux qui en ont eu la chance, on a vécu l'expérience immersive. Demain encore, ce sera possible de le faire. Donc, pour pouvoir avoir une idée, une perspective large de leur pratique, de pouvoir mieux comprendre, mieux apprécier ce que vous allez vivre ou voir ici. Ben, premièrement, Nicole va nous montrer quelques images du processus et de son travail.
Je veux parler? Oui, OK. Alors, je vais surtout parler de l'œuvre sur le toit. Je vais montrer les images qui sont là. Au mois d'avril, quand il n'y avait presque pas de verre encore. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'image, la petite butte, là, c'est les rebuts des plantes de le toit vert à côté que vous avez vu quand ils ont nettoyé tout qui était mort de l'autre saison. Alors, j'ai demandé aux paysagistes de la ville de tout ramasser ça, puis j'allais le garder. Et c'est ça, puis ça, c'est la terre aussi, la contribution de la ville au projet. Et comme ça, on voit le toit sans avant l'installation. L'aspect in situ de l'œuvre, c'était, il y avait des bacs qui étaient là, puis moi, je voulais travailler complètement avec qu'est-ce qui existait. Puis ça, c'était des bacs à fleurs ou des bacs qui plantaient les années précédentes. Alors, j'ai décidé de l'œuvre, je l'ai appelée de table de biodiversité, parce qu'en ce moment, il y a des concertations publiques sur l'agriculture urbaine. Et c'était, je pense, août 2011, il y avait une poussée pour avoir l'opinion publique, pour avoir de l'agriculture en ville, puis changer des lois, puis rendre ça, que ça se passe, là, que tout le monde en fasse et tout. Alors, je trouve que c'est très à propos de parler de ça, mais d'une manière que je vois les choses qui ne sont pas comme d'autres personnes qui sont en agriculture urbaine ou paysagiste ou verdissement. Moi, je préconise, c'est-tu le mot, préconise, oui? Est-ce que je suis plus anglophone? que... les plantes indigènes, les plantes sauvages, et beaucoup de plantes qu'on considère des mauvaises herbes, qui sont souvent des plantes très anciennes, comme verge d'or, archilée millefeuille, agripome, des pissenlits, bon, je peux en nommer, qui sont tous très utiles. Et s'ils sont là, même l'herbe à poux, c'est une plante médicinale. Artemisia, excuse-moi, j'ai
Artemis.
Pas... Artemis. Une autre plante très ancienne, je pense que ça date de 5000 ans. Ils utilisent, les alchimistes l'utilisaient, puis il y a toute une histoire mythique avec cette plante-là. Alors moi, j'invite ces plantes-là dans la consultation publique et à discuter de qu'on les inclut. Parce que dans les jardins communautaires, souvent, il faut désherber. Et quand, juste une petite affaire, quand les paysagistes de la ville sont venus apporter la terre puis enlever les plantes mortes de la saison qui sont dans l'image. Puis là, ils sont venus le 19 pour apporter des plantes qui sont leur contribution, des fleurs cultivées, etc. Puis là, ils disent, ben on va vous voir dans un mois, on va venir désherber. J'ai dit, ben non, je pense pas. Il va pas avoir de désherbage ici. Alors ça, c'est un peu le contexte institut reacting to what's going on socially, politically, in terms of greening in the city and my different philosophy that is about rewilding, integrating wild plants, indigenous plants, and creating an ecosystem, but with cultivated. And listening to the plants that are working for us that we automatically want to get rid of, and a perfect example of that is dandelion. The dandelion, everybody hates it. I know my neighbors, they just get irritated and frustrated. It makes their stress level go up. And one of the pieces that some of you might have noticed, Je switchais en anglais. une des pièces qu'on voit le chaudron, puis après on voit le sac de poubelle, puis entre les deux, il y a trois plantes médicinales qui poussent, qui viennent de mon terrain, qui est mon atelier, qui est un espace de urban wilderness, que à tous les saisons, je me viens faire dire par la ville, madame, là, c'est désordonné, là, il faut faire de quoi? Puis là, il faut que je leur fasse d'éducation. Non, monsieur, il y a une biodiversité, il y a un écosystème ici, il y a j'ai tellement d'oiseaux, c'est très riche. Je m'excuse, là, je coupe pas rien, puis... En plus, là, j'ai fait en sorte que Interar soit partenaire avec la Ville de Montréal pour leur plan de développement durable. Alors, je veux dire que je parle pour cet aspect-là. Alors, là, j'ai perdu mon...
Dans ton approche in situ, de travailler à partir des bacs.
Oui, c'est ça. Alors, j'ai transformé les bacs de Vienne un cercle, mais aussi un espace où on peut... être dedans. Et là, c'est on prépare la terre. Mais ça donne un peu là, où on est. Là. On voit que c'est pas encore vert. On voit la montagne en arrière. Ça ici, c'est... En plus, moi, je commence toutes mes semis chez moi. So it's a homegrown plant. Ici, on voit du maïs, des citrouilles, des courges, quatre variétés de tomates, heritage seeds, des semences héritage qui sont qu'il faut garder, qui sont
des cultivars patrimoniaux.
Merci. Et ces cultivars, toutes ces semences-là, je veux dire, qui viennent de Action communautaire. Action communautaire, c'est ça? Oui, que c'était un don de eux. pour le projet. Et des semences que moi, je garde, que j'ai aussi. Alors, il y a deux variétés de basilic et origan, etc. Alors, ça, c'était un peu... Ça, c'est chez moi, dans ma fenêtre. Puis ça, c'est juste une belle image d'une courge. Je trouve que c'était beau. Et... alors, ça, c'est le processus. Alors, déjà, il y a une transformation qui a commencé et un peu, je jouais avec des matériaux que j'ai apportés et tout est récupéré, trouvé, une accumulation de choses que je trouve au vidange, comme les chaises. Et les chaises qui sont utilisées dans le projet, c'est une recherche que je fais, ou experimentation on decomposition of domestic objects that I leave outside and just see, let them fall apart. And so then they get inhabited by bugs and so on. So, and it's part of that process of letting weather and seasons have an imprint, a live imprint on our objects. So, and seeing how long it'll take a chair to decompose. So, l'échelle aussi était enveloppée de linge. C'est quelque chose que j'ai commencé à envelopper du matériel comme l'aluminium ou des structures durables, des structures comme plus, peut-être qui sont plus architecturales, là, l'aluminium.
Des matériaux qui se décomposent beaucoup plus lentement.
Ben, ou pas, hein? Mm-hmm. Ou ben, l'aluminium, ça ne décompose pas, je ne sais pas. Est-ce que ça décompose l'aluminium? Je ne sais pas. Mais c'est ça. Et c'est enveloppé de linge usé. Et en plus, alors ça, l'échelle, c'est enveloppé de linge usé, puis je pense que c'est 3 saisons que j'ai laissé dehors pour voir quels microorganisms will deteriorate it. So, il y a une certaine recherche qui se fait là-dedans. Et c'est sûr que les matériaux synthétiques sont très propres. Très propre. Je veux dire, il n'y a rien qui est touché. Tu sais, tu peux lâcher ton linge synthétique, polyester, and hey, you know, you don't need to fold it and put it in your drawer. It's like, you can leave it outside, and it's fine. So, ça, c'est intéressant, tu sais. On est tellement bien rangés, mais tu sais, la nature, elle n'affecte pas. On est protégés par ça. Bon, et ça, c'est Frédéric, qui est a great guy, who's been involved in helping me and the RAIC as a volunteer. So there's c'est pas encore totalement enveloppé. Alors la table, la nappe qui est faite de nappes usées qui sont stained, comment on dit, stained, tachées. Par le temps, il y en a une encore, je pense que c'est 4 saisons qui a été laissée dehors, alors tachée par plein d'affaires, qui était un don de Susan Harwood qui appartenait à son arrière-grand-mère. Alors, c'est intéressant l'histoire de certains matériaux. Et celle-là qu'on voit en avant ici, c'était une autre qui appartenait à ma grand-mère qui vient de Trinidad. Alors, ça vient aussi d'ailleurs, encore déchiré, mais étaché. Et d'autres, c'est des draps qui m'appartenaient ou de d'autres personnes. Alors, ils ont des taches sur les draps. Et là, ils sont tachés aussi par la terre, juste avec l'eau et la pluie. Alors, je trouve que c'est un peu la peinture ou le dessin de la terre sur ces matériaux.
Ce processus de transformation-là qui t'intéresse, est-ce que tu l'enregistres? Est-ce que au fil des saisons, par exemple, une chaise, t'assistes à sa transformation? Est-ce que photographie, documentation.
Oui, j'ai beaucoup de photos, mais tu sais, c'est vrai, j'ai pas, c'était pas devenu une préoccupation de le documenter. C'était juste moi qui assistais, puis je prenais des photos, mais c'était pas ça la préoccupation. Mais là, il y a quelqu'un que je connais qui est photographe, qui a su qu'est-ce que je faisais. Puis il veut faire un time lapse pour voir l'évolution de l'œuvre, mais aussi dans ses détails. Alors ça, c'est intéressant parce que je pensais pas tout à fait à cet aspect-là. Comme j'ai pris des photos des chaises, j'ai les photos de cette chaise-là qu'on voit, qui était toute neuve. Je l'ai pris des poubelles, puis était belle, tu sais, était vraiment belle. Ouais, je me rappelle. Puis ça a été utilisé dans deux autres œuvres. Ouais, mais toujours gardé dehors. Mais là, elle a vraiment décomposé.
Par rapport à tu ramènes souvent la notion de temporalité. Cette installation-là, elle va vivre, se développer jusqu'à.
Le projet, c'est jusqu'au 15 octobre. Mais je vais venir à... Attends. Je vais revenir à... Bien, ça, c'est d'autres détails. Je vais montrer quelque chose. On voit en arrière ici qu'est-ce que j'appelle des nids. Je vais parler des nids. Ça, c'est l'échelle avec le linge qui décompose depuis 3 ans. L'échelle humaine. Mais là, avec ça, je vais revenir au nid, puis je vais revenir à ta question, mais juste pour dire l'échelle, là, qu'est-ce qu'en ce moment, il y a cette partie au centre où ça, c'est un verge d'or qu'il n'y avait pas assez de racines, je l'ai arraché, mais je vais en mettre un autre. Mais là, j'y vais juste de planter aujourd'hui du maïs, des courges, puis des fèves, puis qui se fait les trois sœurs, qui est un système ancien de Maya que les Autochtones utilisaient aussi. Ça va être envahi par des courges et tout ça. Mais dans les autres sections, je vais aussi planter. Encore, c'est un œuvre en processus, parce que la plantation va continuer jusqu'au début juillet. Oui, parce que souvent, le maïs, c'est bon le planter jusqu'au début de juillet. Et d'autres plantes aussi peuvent être transplantées. Mais pour continuer... Ah, ça, c'est qu'est-ce que je parlais? Non, je n'ai pas parlé de ça. Ah oui, les pissenlits. Ah, il faut que je parle des pissenlits. Alors, à côté de chez moi, je vais revenir à ta question, par exemple. Oui, je t'ai parlé de ça, oui. Alors, les voisins, ils n'aiment pas les pissenlits. Il y en avait plein. Et alors, ils ont tout arraché et ils ont rempli le sac de poubelle. Là, je les ai vu faire. J'ai dit, est-ce que je peux avoir votre sac de poubelle? Alors, et là, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Parce que je fais de la peinture aussi avec des fleurs de pissenlit. Je les mange, je fais de la médecine avec. Alors, mais avec celle-là, j'avais pas le temps de tout trier. Là, j'ai dit, commence à décomposer, mais il en reste. Je vais l'utiliser dans l'installation. Puis là, j'ai gardé le sac en plastique. Puis en plus, au vent, ça faisait un beau son. Puis, tu sais, il y avait... Puis ça commençait à décomposer. Puis dans l'autre côté... Le gros chaudron que j'ai trouvé aux poubelles, ça faisait the reference to food, to cooking, because the whole dandelion you can eat, and the root is medicinal, and it's, if we ate them all, we wouldn't have to pick them and throw them away, and we wouldn't be allergic to them. So, ça c'est cette œuvre-là, un petit tangent there. OK, revenir au nid, puis à ta question. Alors, les nids, parce que, comme je disais à Luce, que mon idée, comme vous avez vu au début, quand je suis arrivée là avec Victoria, on a rencontré Luce Botella, il n'y avait rien. C'était comme des briques, tu sais, pas de verdure. Là, j'ai dit, OK, on va verdir tous les murs et on va faire de quoi avec les bacs. Puis je vais planter des vignes, puis là, à toutes les saisons, ça va revenir. Alors, les nids sont faits un peu avec mes connaissances sur l'écologie dans les bois et un peu en... How can I say this? Listening to how nature works and how branches are a form of... insulation. So, you know, and it, si on le sait, tu sais, les branches, là, quand tu essaies de défaire ça, là, tu fais, tu sais, piquer, puis, tu sais, là, tu saignes, parce que c'est tellement comme, ça reste pogné. C'est parfait. C'est parfait, ça reste pogné, ça fait un mur, ça fait une isolation, ça garde la terre ensemble. On a juste à penser aux castors qui, tu sais, font leur maison avec ça. Et d'autres, moi aussi encore chez nous, j'ai fait de l'expérience de garder des tas de branches, puis il y avait une moufette qui s'est faite de sa maison-là, puis la marmotte, puis tout ça. Alors, c'est en observant la nature aussi que je... que c'est venu de « OK, je crée un nid ». Puis en bas, parce que c'est des briques, il fallait quelque chose qui retient la terre. Puis c'est du linge usé. À place d'utiliser un geotextile that landscape architects use to hold earth or to control root systems and stuff, je dis ah, « ben on utilise du linge, on a ça en masse, du linge usé ». Alors, j'ai utilisé ça. Puis aussi, il y avait l'idée avec ça de récupération de linge qui, pour moi, peut-être c'est un lien qui est loin pour certains, de l'agriculture qui est utilisée dans pour pousser du coton et d'autres fibres pour faire nos linges, pour faire notre linge, tu sais, des vêtements. Alors, c'est pour moi, je pensais à ça, tu sais. De qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autres plantes pour faire des vêtements que du coton, etc. Et il y a des approches écologiques comme hemp and bamboo and other species that are very productive and don't need much water and ça pousse comme rien, tu sais. Il y a des choses à changer à ce niveau-là. Et aussi, il y a tout l'aspect socio-économique de consommation, de toujours acheter du linge. Ben, tu sais, ça rentre dans cette optique-là. Mais pour revenir, les nids sont faits pour durer. Ça, moi, je dirais que ça pourrait durer au moins avec minimum entretien, peut-être rembourrage un peu, au moins 5 à 7 ans. Sinon plus, puis la décomposition des branches, c'est très lent. En décomposant, ça va nourrir la terre aussi, puis ça va aider les plantes. En plus, les plantes qui sont plantées dans les nids, c'est toutes des plantes sauvages, comme verge d'or, perchili millefeuille, et même le hublon, c'est très une plante très... tu sais, ça peut pousser dans du gravel, là. C'est incroyable. Alors, c'est quoi le mot, là? They're very hardy. They're hard to kill. So, I'm extremely confident they're going to be back, and they're going to come back, and you're going to have a nice green wall. So...
Peut-être une question par rapport à la, qui va être la dernière. On va passer à Audiotopie. Je sais que dans ton travail, il y a une dimension aussi d'échange, de relations. Dans ce cas-ci, là, tu parles de table de concertation, de rencontre et de l'enseignement, justement. Mm-hmm. Et, dans le cas ici, est-ce qu'il va y avoir des rencontres? Est-ce que tu reviens dans le jardin? Comment le contact avec... de toute cette transmission-là de savoir. Entre autres, tu parlais des gens qui te proposaient de venir. Il y avait déjà un rendez-vous pour assurer le désherbage. Tu as réussi à les convaincre qu'ils n'auraient pas rien à faire.
Je ne suis pas sûre, là. Non, moi, je leur ai dit ça en riant, mais il faudrait les parler. Ils vont désherber le toit vert parce que ça, il y a un aménagement qui est fait spécial, là, mais... Oui. Oui, il va y avoir des ateliers. Avec la Maison de la culture, il va en avoir trois, c'est certain. Puis aussi pour les journées de la culture. Et en plus, possiblement d'autres, là, ça c'est en attente de financement. Puis après ça, je vais être là pour des ateliers qui vont être éducatifs, mais par l'action de préparation de teinture mère, que de la médecine avec des plantes les plantes médicinales sauvages. Et aussi, il va y avoir de la cuisine. Je vais faire de la cuisine. Aussi, il va y avoir du dessin live avec des plantes fraîchement cultivées, qui est quelque chose que je fais depuis 2 ans. Et là, je partage ça avec la communauté de Place Venoix. Et je fais ça individuellement. Alors, je vais faire des ateliers avec ça. Et c'est tout, ça va être en parlant, mais en action aussi.
Peut-être tout de suite.
Je ne sais pas s'il y a d'autres.
Si vous avez des questions dans la salle. Sinon, on va passer dès maintenant. Ah oui.
Juste mon nom, Louise.
Hello.
Oui, c'était juste une observation quand tu parlais du linge, mm-hmm. puis toute ta pensée. Moi, ce qui m'a frappé vraiment, c'était le linge qui représente le corps, qui représente les humains, puis qu'on est en dessous de la terre. Qu'on
oui.
est, que, moi, c'est ça qui m'est venu. Oui. Puis après ça, ben, si on va plus loin, ben c'est la mort, puis qu'on, you know, we go back to the earth. Anyway, j'ai aimé ce que tu as dit, puis toi, ton idée. Mais je voulais te le dire parce que je trouve que ça ajoute une globalité.
Bien, je peux ajouter à ça aussi, je pensais à... il y avait un aspect, je trouve, que... I'll speak in English. It's this feeling of care. And with care is a funny thing, because there's a balance between caring and not caring. So, like, caring and then letting go and letting people... just do their thing. So I felt like plants, when you care about them, it's not going to sound crazy, but it's almost like they, you know, there's a positive response. So there's like, I felt like I was dressing, and like there's three there that I dressed the pots, but I dressed the plants. So I felt like I was dressing my kids when they were little. And there is this feeling of care. So there's this thing of clothes, and it was kind of what you were saying, you know, that, yeah, humanizing the plant, but the plant, human, well, not humanizing, but making us a plant, or anyway, I don't know how, what the opposite is. Yeah. How would you say? Yeah. What did you say?
It's all connected.
Yeah. It's like part of, you know, you eat the plant becomes
yeah,
part of you.
And we become the compost, we become
plants. Yeah, it's that, yeah.
Isn't that beautiful?
That's wonderful.
Do I get to sing a song?
No. No, you have to say it.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, non? Non.
On peut passer... Et Yannick et son comparse de Zootopie. Merci, Nicole.
Oh, oui. Oui, j'avais une dernière chose à faire. Je vais juste passer vous offrir quelque chose. Vous avez le choix de prendre ou non.
Oui. Je vais t'en apporter à toi.
Ok, mais
c'est tout
genre,
je pense
que
vous êtes prêts.
Ok, non, je
la
mets sur le slide.
Un peu de 3 minutes.
Oui, il peut partir.
Justement que les semences circulent, le projet, qu'est-ce qui va devenir des plantes après? Est-ce que tu les récupères et tu les... qu'elles vont se retrouver sur ton terrain? Que...
les plantes qui sont là?
Oui.
Non, je veux qu'ils restent.
Restent.
Oui, oui, oui. Non, moi, j'en ai en masse. Je veux en donner de chez moi. Okay. Moi, j'en donne. Je veux le donner à tout le monde. Ben, c'est pas moi qui donne, c'est les plantes qui donnent. I facilitate the plant's performance.
Est-ce qu'on commence pendant que ça circule?
Oui. Bon, donc, maintenant, on passe à l'utopie. Est-ce que vous allez nous parler exclusivement de post-choc ou donner une perspective de plusieurs autres déambulations que vous avez conçues?
C'est sûr qu'il y a des gens qui ont fait post-choc tout à l'heure, donc il y en a qui n'ont pas fait. Peut-être qu'on pourrait présenter d'abord un petit extrait d'un autre projet qui s'appelle Réseau Electro, qui se déroule, donc c'est un parcours sonore qui se déroule dans la ville intérieure, du métro Square Victoria jusqu'à Place d'Armes. Donc ça dure 1 minute, c'est sûr que ça ne rend pas hommage à l'expérience, parce que l'expérience, c'est d'être sur le lieu, puis de marcher, puis d'écouter la bande sonore. Dans ce cas-là, en fait, ce projet-là est centré sur l'aspect musical. Donc, c'était, au fond, d'aller chercher, à travers la musique électroacoustique, comment on pourrait traduire le lieu, donc les climats, les ambiances. Donc, d'ajouter, au fond, une dimension amplifiée à l'expérience qui est quand même aussi déjà fortement chargée par des corridors qui ont été dessinés, qui ont déjà une présence importante. Donc c'est 1 minute. Alors ça, c'est un des premiers projets qu'on a fait suite à une rencontre entre Étienne puis moi-même et d'autres personnes qui font partie du collectif Audiotopie. On crée des parcours sonores qui sont des expériences qui interrogent la ville, qui interrogent le bien commun, le sens commun, en fait. L'idée, c'est toujours de poser des questions. Dans ce cas-là, dans ce projet-là, en fait, c'était un des premiers projets. On voulait développer aussi notre méthodologie de travail. Pour composer ce parcours, on a créé une partition. Alors, on a commencé par dessiner le lieu. Il n'y a pas vraiment de carte de la ville intérieure en détail. Donc, on a dessiné la ville intérieure dans ses moindres détails. Et à partir de là, on a développé une partition, une codification, en fait, des ambiances sonores du lieu. Et à partir de là, en fait, il y a eu tout un travail d'interprétation par Étienne. Donc à partir d'un langage commun qu'on a développé, une terminologie, mais aussi une sorte de correspondance.
Je peux ajouter que chaque pièce était en fait associée à une couleur, ou pas une couleur, pardon, une texture, qu'on a essayé de traduire en son le plus possible. Donc la première pièce qu'on voyait au début de la vidéo, c'était une pièce qui était soi-disant vileuse. Mm-hmm. Chaque son essayait en fait de reproduire le plus de textures qu'on retrouve aussi dans l'architecture du lieu. Donc ça a donné lieu à une certaine terminologie qui s'est installée à partir de ce projet, mais quand même, la terminologie par rapport au sonore évolue tout le temps, en fait, d'un projet à l'autre aussi.
Donc c'est jamais de... Au fond, c'est noter les moments de crescendo, de transition sonore, d'émergence d'un petit son. Donc c'est pas forcément masquer le son, l'environnement sonore réel, mais c'est plutôt de l'amplifier, d'aller... accentuer un phénomène donc qui nous, plutôt que nous enferme dans une bulle sonore qui vient nous amener à porter une écoute du lieu, mais par moments aussi on va donc focaliser sur certains détails de l'environnement. Des fois on va même couper le son, puis là c'est de porter attention sur le phénomène réel. Des fois, c'est d'apporter une dimension supplémentaire qui va faire que un lieu banal va prendre une autre dimension. Donc c'est à chaque fois, au fond, c'est de partir de l'existant et d'apporter une couche supplémentaire qui vient modifier notre perception. Et voilà. Hier, en suivant la discussion hier avec de Philippe Côté, c'est ça. Il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit, que j'avais un peu oublié, c'était le livre « L'invention du quotidien » de Michel de Certeau. Puis je trouvais, par rapport aux événements actuels aussi, il y avait l'idée au fond que de quitter ce monde d'en haut pour aller aussi dans ce monde d'en bas qui serpente, donc qui engage le corps et qui, où on doit user de tactiques pour circuler, pour défier les territoires plus ou moins contrôlés. Donc, c'était juste une référence par rapport à cette idée de marche qui devient centrale aussi dans notre travail, où les représentations s'accordent, se jouent en fait dans l'action et sont indissociables d'une certaine manière. On va avancer un peu comme ça, on va laisser une petite période de... pour si les gens veulent revenir aussi sur le projet qu'on vient de vivre donc tout à l'heure, hein, s'il y a des commentaires aussi.
On peut continuer encore.
Voilà, c'est ça. Donc c'est ça, nous on fait des parcours sonores, on a pour l'instant 12 parcours à Montréal qui commencent tous de stations de métro. Chaque parcours a une identité particulière, donc c'est un peu difficile de montrer un projet puis de dire c'est ça qu'on fait. Chaque projet au fond engage un type de positionnement par rapport à l'espace, puis à, aux intentions qu'on peut avoir. Par rapport à ce qu'on a proposé aujourd'hui, donc la performance qu'on a fait aujourd'hui, c'était un peu différent dans la mesure où généralement nos parcours s'écoutent au casque. Là, c'est un dispositif qui est constitué de 4 vestes où donc on déambule dans la ville, on projette le son dans l'espace public et donc tout le groupe entend le son de, organisé, spatialisé dans et mélangé au fond avec les passants.
Ouais, l'environnement sonore présent, en fait. Aussi. Mm-hmm. Vous aussi dire que le groupe, dépendamment, chaque personne va entendre une portion différente, puisque dépendamment de la position de la personne à travers le groupe, il va avoir une perception qui va être différente de l'œuvre, enfin, de ce qu'il va entendre. Puis même point de vue de la composition est faite un peu de manière où est-ce qu'elle peut être floue, où est-ce qu'il peut manquer des parties, certaines mouvements. En fait, on n'a pas le contrôle total, comme dans le cas du casque, où est-ce qu'on contrôle absolument tout. Mm-hmm. On peut tout décider de tout. Le seul avantage qu'on a, c'est de pouvoir synchroniser, en fait, se synchroniser nous-mêmes par rapport au marcheur. Ce qu'on n'a pas comme possibilité avec le projet avec un casque, en fait. Puisque les gens doivent absolument suivre le parcours tel qu'on essaie de leur imposer. Mais ce qui est un défi, d'ailleurs, de taille.
Alors, le parcours, c'est un mode de diffusion, c'est un mode de production aussi. Donc, dans notre méthodologie, on va utiliser aussi le parcours pour qualifier un lieu. Donc, on va faire, par exemple, des parcours, on peut faire des parcours experts, mais des parcours aussi avec des usagers. On a fait un projet avec des femmes handicapées qui nous amènent dans leur vision de la ville et comment elles la vivent, elle la ressent, puis comment aussi certains éléments du paysage prennent sens à leurs yeux, comment finalement la situation devient incarnée et puis modifiée, altérée ou construite par rapport à un point de vue qui est unique. Et je pense que ça aussi c'est très important, c'est que les réalités qu'on essaye de décrire dans nos parcours sont des réalités qui sont construites dans une interaction donc entre la personne qui occupe le lieu et l'environnement. Et c'est ça.
On passe au post-choc ou...
On peut passer... post-choc, au fond, c'est le dispositif en soi, c'est... une composition, c'est une interprétation musicale. L'idée originale du projet, donc, qui tient un peu à son titre, Pop Shock, donc, c'était l'idée, un peu un questionnement sur qu'est-ce qui se passe après une catastrophe, un incident majeur. Donc, c'était suite aux différentes catastrophes japonaises, puis qui finalement prend sens aussi aujourd'hui. Comment on réagit à une catastrophe, qu'est-ce qu'on fait, comment on se déplace, comment les événements s'organisent. Donc c'est aussi différentes étapes qu'on vit. Donc c'est aussi l'idée du deuil, parce que dans la catastrophe, il y a toujours une perte. Donc comment on va vivre ce deuil-là? Bon, ça c'est le deuil, on dit que c'est en 7 étapes, le choc, le déni, l'expression des émotions, le sens de la perte, etc., etc. C'était un peu ça l'idée du départ, mais bon, c'est sûr qu'après, c'est le contexte aussi qui prend le dessus, puis qui fait que le projet s'oriente d'une certaine façon. Puis c'est aussi l'interprétation musicale qu'on va faire du lieu aussi.
Du lieu et du thème croisés en même temps, en fait, puisque le thème vient jouer et le lieu aussi, en fait. D'ailleurs, le parcours devait se rendre jusqu'à la place Laurentienne sur le campus de l'Université de Montréal, mais... L'Université de Montréal ne nous a pas accordé
les droits.
Alors, on a quand même fait un petit tour furtif sur leur territoire assez rapidement pour pas que leur gardien vienne nous arrêter.
Est-ce qu'à chaque occasion, il y a un échantillonnage, une capture sonore sur l'itinéraire, sur le parcours? C'est votre matière, elle est extraite du lieu même?
Je peux juste répondre en partie. Dans le cas présent, pas beaucoup, en fait. Il y a eu quelques échantillons qui ont été pris, mais peu ont été utilisés. Il y en a qui devaient être utilisés sur le parcours original qui passait donc à l'Université de Montréal, qui a été viré donc pour les raisons qu'on connaît. Mais sinon, c'était un mélange de synthèse, en fait, puis de prises faites sur les lieux et aussi des prises faites complètement ailleurs, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est une espèce de mélange.
Souvent, on va analyser le lieu, y être présent assez longtemps. Donc, on se l'approprie, au fond. Puis après, souvent, on va... À l'étape de la composition, on va aller faire des prises, des captures binaurales, donc, mm-hmm. qui spécialisent le son de chaque, qui reproduit l'échelle humaine.
Dans le cas présent, donc, si je peux revenir par rapport aux vestes, la prise binaurale en fait permet de rendre l'environnement sonore tel qu'il est, à l'écoute. Sauf que là, dans le contexte actuel avec les vestes, c'est impossible. En fait, ça ne fonctionne qu'avec un casque, en fait, pour repositionner la prise de son dans son environnement, en fait. Mais
Le temps file, je pense que je vais plutôt offrir l'opportunité aux gens de la salle d'intervenir. Mm-hmm. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait poser une question.
Jean-François Brast. J'étais pas mal intéressé quand on a fait la marche tantôt d'entendre aussi des bruits d'activités qui n'étaient plus là, disons la présence des enfants dans la cour d'école. Puis je me demandais si cette idée un peu aussi que le sociologue Pascal Nicolas Lestrade a parlé beaucoup de la micropolitique des usages, en fait. Il parlait beaucoup de ce qu'on regarde beaucoup l'architecture en fonction des usagers, mais peu souvent en fonction juste de l'usage, en voulant dire qu'en fait, c'est que les espaces laissent des traces. Et ce que j'ai vécu là-bas, c'était aussi des traces, ces traces d'usage qui finalement s'accumulent dans des espaces dont on a en fait cette mémoire, mais qui ne sont pas nécessairement présents quand on repasse dans les lieux. Donc j'étais comme en train de revivre ou de possiblement cette accumulation-là. Je me demandais si c'est quelque chose qui vous intéresse à travers votre travail.
Oui, c'est sûr que ça nous intéresse. Puis c'est moi, au niveau scientifique, c'est plus les démarches, des théories de l'action qui m'intéressent. Donc c'est l'ethnométhodologie, les ambiances, cognition distribuée. Donc comment font les usages c'est comment les usages sont aussi importants au fond que le lieu, quoi, au fond. C'est comment il se crée aussi des contextes aussi qui amènent des usages particuliers. Donc, le fait de capter cette mémoire et participe aussi de cette intention-là de montrer que le lieu finalement est habité, en fait.
J'ai peut-être une question. Tu parlais, tu évoquais un de vos projets qui utilisait l'expérience spécifique de femmes. Comment ces expériences-là ont été traduites après, à partir de... Ça a été des entretiens?
Ça a été un assez long processus. C'est un projet qu'on a fait avec Conscience Urbaine. Déjà, ce groupe de femmes handicapées étaient déjà engagées dans un processus... Dans une démarche en fait de caractérisation de la ville, donc de déterminer les lieux aussi accueillants et puis accessibles. Puis ça a été au fond, il y a eu un certain nombre de rencontres pour parler des thématiques qui les préoccupaient au fond, qui étaient au fond leur problématique de vie dans la ville. Suite à ça, en fait, on a fait. Chaque femme un peu incarnait une problématique qu'elle vivait, qu'elle voulait mettre de l'avant, en fait. Puis, suite à ça, au fond, qu'on avait déjà bien avancé dans le concept, dans la problématique de la chose, on a fait des parcours avec ces femmes-là pour ancrer aussi la parole par rapport au lieu, donc l'ancrer par rapport à des détails qui sont révélés dans le parcours sonore. Mmh. Suite à ça, ça a été au fond de dégager les éléments les plus contextualisés, parce que des fois, on parle de choses mais qui n'ont rien, qui n'ont pas forcément un intérêt par rapport au contexte. Mm-hmm. Puis ensuite, elles ont relu le projet, puis ça a été enregistré par Pascal Bussière. Et donc, le parcours est toujours accessible sur notre site.
En fait, c'était là-dessus que j'aurais... Ah, il y a une question pour donner l'occasion aux gens de profiter de vos parcours. C'est possible de...
Bah, tout est accessible gratuitement. On a 12 parcours téléchargeables sur audiotopie.com. Puis la semaine prochaine, on lance aussi une application iPod Touch aussi. Bon, au fond, il y a des paramètres, des éléments GPS qui vont servir pour un des projets qu'on a fait qui couvre en fait, c'est une trame de points sonores qui couvre le parc La Fontaine.
Je sais pas, mais en tout cas, Julie Faubert, pour avoir fait quelques parcours sonores, puis pour avoir en tout cas souvent entendu les gens parler de ça, ça revient presque tout le temps comme « Ah ben non, mais Janet Cardiff, elle a fait des parcours sonores, vous faites juste la même chose » ou « Je sais pas, ça a été fait » ou « Je sais pas quoi ». Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme, que c'est comme de dire « Bon, il y a quelqu'un qui a déjà fait de la peinture un jour, donc il n'y a plus personne qui peut en faire. Hein? » Mais vous, vous pensez quoi par rapport à ça?
Ben, c'est comme le rock, à la limite. C'est comme... Je veux dire, en 2012, on peut pas... C'est un peu dur d'inventer des nouvelles formes d'art ou... complètement quelque chose de complètement neuf, j'ai l'impression, c'est toujours une partie de... Mais je pense que c'est pas tout à fait la même expérience qu'on propose que Mme Cardiff, par hasard, par vrai exemple. Chaque créateur se définit par rapport à ce qui...
Merci. Ouais. OK. Non, mais est-ce que vous trouvez pas, au contraire, que c'est comme, c'est juste comme un nouveau médium ou comme une autre forme d'expression qui est aussi ouverte que je ne sais pas moi, mais peut-être, en tout cas, la sculpture, c'est peut-être exagéré, là, mais dans le sens que c'est juste une autre manière de... Parce que, je veux dire, je le dis, mais ce n'est pas des gens qui sont loin là, de l'art qui disent ces commentaires-là. Là. C'est vraiment des gens... Je l'entends des tonnes de fois, moi, ça. Puis ça, je me demande si vous trouvez que c'est assez ouvert pour être comme... Je veux dire, qu'il pourrait avoir, par exemple, des centaines et des centaines de personnes qui font des parcours sonores, puis qu'on va toujours arriver à quelque chose de différent, par exemple.
Moi, je n'ai pas de problème avec ça, comme tu parlais de peinture. Je pense qu'il y a des peintres, il y en a plein, et puis c'est un médium, au fond. Là. C'est un médium où le temps de l'œuvre et le temps du lieu est le même. Je pense aussi qu'il y a une... Au fond, il y avait aussi dans Audiotopie une démarche, une intention aussi d'amener en fait des nouveaux outils de conception pour les designers d'urbain, parce que moi je viens de l'architecture de paysage. Donc c'est aussi à travers l'art, passer par l'art pour finalement arriver à changer les pratiques au fond qui régissent au fond la manière dont les espaces sont aménagés, quoi. Et l'art, ce n'est pas exclu de ça, en fait.
Oui, oui, on est la dernière, sans doute.
Victoria, je suis juste curieuse à savoir quand vous ou comment vous prenez la décision de employer les casques ou pas comme expérience sonore, puisque vous faites casques, les deux, puisque ouais. Ça c'était un projet sans casque ouais. Aujourd'hui aussi, je crois, le parcours c'était sans, ça, mais ça, le fait, projet qui était aujourd'hui aussi.
Oui, aujourd'hui post-choc, c'est uniquement pour les vestes pour l'instant, peut-être c'est qu'on ça. Va dans le futur en faire une version pour casque.
Donc, vous avez fait les deux?
Pas encore, ouais. En fait.
Ah, OK, j'ai compris que... Ah, okay,
dans le futur, peut-être qu'on va le faire, parce qu'en fait, on aime bien avoir la version avec casque, puisque ça donne une ouverture, une possibilité à n'importe qui d'y aller, n'importe quand, en fait. C'est ce qu'on trouve merveilleux aussi dans le parcours sonore, c'est qu'il n'y a pas de lieu de diffusion. C'est pas comme un concert où il faut être là, sur place, présent. Bon, vous pouvez me répondre que n'importe quel CD s'écoute dans son salon n'importe quel jour, mais... Mais donc, c'est ça que c'est la beauté, je trouve, du parcours sonore, donc avec le casque. Mais en même temps, la veste donne une autre dimension plus performative.
Mais on voudrait pousser un peu le projet des vestes, donc avec plus de vestes, puis peut-être avec des danseurs.
Meilleure qualité acoustique aussi, si possible. Mais enfin.
Voilà.
C'est totalement différent comme expérience. Ça a été une expérience de groupe, de cohorte, plus que...
Oui, tout à fait. L'expérience au casque est au contraire très, très individuelle. Ouais. Généralement, je suggère aux gens de ne pas faire le parcours en groupe puisque l'expérience est très, très renfermée sur soi-même. Et...
Bon, mais je vous remercie beaucoup.
Merci.
On en profite pour prendre une petite pause avant la prochaine table ronde.